Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International. Dans ce studio parce que vous pouvez nous écouter derrière votre poste radio, petit poste parfois même, comme nous le disent et nous le montrent les auditeurs. Et puis il y a aussi la possibilité de nous suivre en Facebook Live et donc de nous voir tous, pas en pied en cap, mais en tout cas de voir au moins nos visages. Et ça permet eh bien, de tout de suite vous présenter nos invités. Le très élégant aujourd'hui, Rémi Ngono. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie. Bonjour, bien sûr, Xavier Verdez et Alessandro Valenti.
Et oui, de temps en temps, on vous change un peu d'adversaire pour voir si vous vous adaptez au terrain.
Ouais.
Il ne faut pas toujours jouer à domicile, Rémi Ngono. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour, ça va?
Très bien, et vous?
Très bien.
Vous êtes prêts?
Pour affronter personne, oui, je suis toujours prêt.
Alejandro Valente, le ton est donné, hein, vous avez remarqué. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour, allez, bah, moi ça va très bien, c'est la Saint Maradona aujourd'hui, alors c'est parfait.
Exactement, on va lui s'en occuper de votre Saint Maradona. Laurent Salerno est à la réalisation aujourd'hui. C'est Saralou Bakouche qui m'a aidé à préparer l'émission. Et à la vidéo, vous avez Swell Kedir et Léo Bernard. Alors, dans l'émission du jour, dans nos débats, Nice et Lille, deux clubs français qui ont hier soir un peu redoré le bilan des équipes nationales en Ligue européenne. Heureusement, car en Ligue des champions, c'est plutôt bonjour tristesse. Deux gardiens de but au top européen cette semaine, deux lions en cage, l'un au Stade Rennais, Alfred Gomis, et l'autre à Chelsea, Edouard Mendy. Les Sénégalais ont bien de la chance. La Super League européenne mit tout réalité, un projet qui prenait forme dans l'ombre, mais placé sous les projecteurs par le président démissionnaire du Barça. Une bombe à retardement ou pas, nous vous répondrons. Et puis il est donc l'un des plus grands, sinon le plus grand. Il est même Dieu pour certains. Notre Diego à tous, le seul, l'unique, a aujourd'hui 60 ans. Feliz cumple Maradona, et nous en parlerons. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts.
Le virus m'a défié et je l'ai vaincu. Mais tout le monde n'est pas Zlatan. Ne défie pas le virus. Respecte les règles, la distanciation sociale et surtout, porte un masque.
Vous avez entendu, n'est pas Zlatan qui veut, Ibrahimovic encore moins. Et alors que la France est entrée dans son premier jour de reconfinement ce vendredi, le géant suédois des Rossoneri divulgue son message de prévention contre le coronavirus lancé du sommet d'un building de Milan. Au lendemain du message, on va dire raté, de Cristiano Ronaldo qui traitait de bullshit le test qui le décrétait positif et qui l'a privé du match contre Barcelone. Est-ce que vous êtes plus Zlatan ou plus Cristiano, Gilles Verdez?
Là-dessus, je suis plus Zlatan parce que je trouve qu'en plus, il y a un détournement de lui qui est magistral. Il faut avoir une sacrée personnalité et quand même un second degré qu'on ne soupçonnait pas, parce que parfois, je l'ai critiqué pour faire ça. Donc là, je suis totalement Zlatan.
Totalement. Et vous, Rémi? Vous êtes obligé d'être Zlatan aujourd'hui?
Je ne peux pas être Zlatan parce que Zlatan fait du trompe-l'œil. Parce que défier le virus, ce n'est pas ça. Il faut se dire que...
Non, mais justement, il dit que lui, il l'a défié, mais lui, il l'a eu.
Il reconnaît son erreur.
Voilà,
donc il dit qu'il a défié le virus. Moi, je ne crois pas qu'on puisse défier un virus parce que ce qui vous tue est toujours invisible. Il est toujours tout petit. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas...
Non, mais il faut se protéger, en tout cas.
Voilà, il faut se protéger. Donc, moi, je crois d'ailleurs qu'il faut enlever totalement ce qu'on appelle le défi parce que pratiquement, on ne défie ni la maladie ni la mort.
Mais vous avez dû suivre que Cristiano s'est un peu trompé ces jours-ci.
Mais c'est pour ça que je ne parle d'ailleurs pas de lui, okay. Parce que complètement, je suis contre ce comportement.
Alejandro ?
Je ne vais pas tirer sur une ambulance, mais je pense que Cristiano Ronaldo, effectivement, a eu une attitude un peu trop désinvolte vis-à-vis de ce problème. Et le message qu'il a adressé à ses nombreux supporters n'était pas le bon. Donc je pense qu'il ferait bien de s'inspirer des Zlatan et essayer de corriger le tir.
Bon, en tout cas, bravo Zlatan. Les images d'ailleurs sont magnifiques si vous nous regardez à travers Facebook Live. On saute du building, retour au gazon.
Allez, Attal, il est passé, temps de déborder, Attal. Petit crochet, ça c'est bien joué, le bon centre, Dolberg, et le but. Bien Amine Gouiri, pas du tout. 3 points pour l'OGC Nice.
Nice, la ville frappée hier encore en son cœur, en sa basilique, par un attentat islamiste qui a tué 3 personnes en prière. Nice avait sans doute peu le cœur au football hier soir, même pour fêter la victoire des siens. Avant le coup d'envoi d'ailleurs, les joueurs qui portaient un brassard noir ont marqué leur recueillement en silence, dans l'esprit de ceux qui défendaient Black Lives Matter il y a quelques semaines. Et ils ont évoqué cet hommage en fin de match, comme leur capitaine, le Brésilien Dante.
Bah, c'est clair que c'était un contexte spécial, c'était un contexte triste. On a, bien sûr, on a parlé pas mal de fois et vous avez vu aussi qu'on a, on avait prévu déjà de pas trop célébrer le but. C'était fait parce qu'on était, on est tous dans le groupe très touchés. On a parlé un avec les autres et qu'on porte au nom du groupe toutes nos condoléances. Aux familles touchées, et voilà, le foot passe un peu après, malgré que c'est notre profession, mais on était très touchés, et c'est bien de finir cette journée par une victoire.
Les Niçois n'ont donc pas célébré leur but, mais ils ont remporté leur premier match de poule en Ligue Europa. Est-ce que c'est bon pour faire oublier la défaite, voire ce qu'on avait presque qualifié de déroute à Leverkusen contre le Bayern, 6-2 la semaine passée, et pour enfin se lancer dans l'aventure européenne du bon pied, Gilles Verdez?
Disons que ça les remet dans une dynamique peut-être pas positive, mais au moins égale, puisque le groupe repart de zéro. Tout le monde est à égalité, c'est le minimum quand même.
Dans le groupe, hein, toutes les équipes.
Toutes les équipes sont à égalité, voilà. Mm-hmm. Donc c'est le minimum, 1-0 contre une faible équipe. Le meilleur joueur, ça a été le gardien de but Benitez. Ça prouve quand même que Nice a été parfois en difficulté, mais il le fallait. Le contexte difficile, un match qui toute la journée se déroule pas, avec les injonctions légitimes du préfet, les hésitations.
C'est peut-être ça.
Absolument. Il fallait gagner, et Nice a gagné, a rendu hommage en plus aux victimes, donc bravo aux Niçois.
Alejandro ?
Moi je trouve que les joueurs niçois ont eu un grand mérite à jouer ces matchs, on sentait que c'était dur, tout invité un
c'était
peu...
C'était pire
à...
que jamais, parce qu'en plus oui, avec le huis clos, vide, avec cette tristesse déjà ambiante aujourd'hui...
Absolument, tout était contre les Niçois hier soir, ils ont eu le mérite de gagner ces matchs, c'était pas évident, cette équipe de Beersheba, c'est pas une énorme équipe, mais quand même... Ouais. C'était un adversaire qui a posé quelques problèmes et je pense que cette victoire lance enfin Nice dans sa saison européenne. C'est un groupe très ouvert, comme le disait Gilles, et tout est possible.
Tout est possible pour Nice, selon vous, Rémi Ngono?
Je ne peux pas faire la fine bouche par rapport à Gilles Verdez. Moi, bien au contraire, je crois que Nice, quand il dit que le meilleur joueur a été Benitez, oui, Benitez fait un grand arrêt à la 93e minute.
Oui, parce que
mais il faut savoir que les camarades également, ils ont eu des occasions, tout comme Dolbert, de pouvoir tuer le match. Ils avaient même la possession. Donc, quand on essaie de regarder le contenu, il est quand même suffisant pour que Nice le remporte. Et de toutes les façons, on ne peut pas dire que à Nice, on va dire, attendez, après avoir subi ce qu'ils ont subi, qu'ils réussissent à relever la tête, alors que moi, j'ai vu, par exemple, des équipes comme Marseille, contre des clubs comme Domzalé, ne même pas réussir à faire ce que Nice a fait là. Moi, je dis bravo à Nice, surtout que c'est dans la douleur, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais hommes, les vraies personnalités et surtout les vraies équipes de football.
Alors, si on fait juste abstraction du contexte,
oui.
Essayons sportivement. Je vous rappelle quand même que Nice a péniblement battu 1-0, une équipe israélienne certes méritante, mais où il y a un seul bon joueur, c'est Josué, on en avait parlé ici, qui d'ailleurs a fait son match. Mais sinon, c'est une toute petite équipe. Donc maintenant, on y reviendra avec votre problématique. On en est, et encore une fois... Avec le contexte, c'est légitime. Mais sportivement, on en est à célébrer une victoire de Nice contre une équipe israélienne faible, 1-0. Voilà où en est le football français. Donc, un petit peu, relativisons, mon cher Rémi,
Non, Gilles. tu sais très bien que je suis un fervent supporter.
De Nice?
Non. De José Mourinho.
Ah oui.
Mais José Mourinho est parti perdre contre quelle équipe?
Oui, il a changé 9 joueurs.
Oh, voilà, mais attendez, vous allez dire qu'il a changé 9 joueurs.
Oui,
mais
bah,
tous
c'est
ces joueurs-là, mais attendez, il a perdu, c'est quand même José Mourinho.
Oui.
Ça, c'est Tottenham.
Ah, oui.
Donc, à une certaine période, comme je vous disais, quand moi je vois beaucoup d'équipes françaises qui vont en Ligue Europa, qui rencontrent des équipes de Slovénie, des équipes de n'importe quel pays que je ne peux pas situer sur une carte de géographie.
Ça,
et vous
problème.
Me dites que, non, avec Nice, une petite équipe d'Israël, mais attendez, cette équipe-là s'est qualifiée, c'est à poil. Même si ce n'est pas ce qu'on peut croire là, mais c'est quand même une bonne équipe de football.
Bon, en tout cas, Nice a gagné et dans ces ténèbres, on va dire, qui s'étaient abattues hier sur la ville de la Côte d'Azur, eh bien, ça a sans doute fait du bien au moins aux joueurs et au club. En parallèle à l'autre bout de la France, avec la même émotion, les joueurs de Lille ont joué, eux, face au Celtic Glasgow et ils ont arraché un match nul 2-2. Les dogs lillois ont-ils eu de la chance finalement, Rémi?
Oui, ils ont eu beaucoup de chance. Parce
ils s'étaient menés 2-0 à la mi-temps.
Ils étaient
à un moment du match.
En même temps, c'est aussi ça, le football, c'est ce qu'on appelle aussi la remontada. On ne va pas utiliser la remontada pour les autres. Et puis, on ne va pas l'utiliser pour eux, d'autant plus qu'ils n'ont pas perdu. C'est le plus important. Donc, ils ont fait l'essentiel, ils sont pour l'instant sauvés, ils ont encore toutes les possibilités de pouvoir aller devant. À défaut de gagner, il faut toujours éviter de ne pas perdre. Il y a un proverbe africain qui dit que il faut se contenter de l'os qu'on vous a donné, vous le rongez.
Alejandro, Lille, est-ce que vous, je sais que vous êtes un fervent supporter, non, intéressé
on va
supporter.
Pas exagérer, mais je trouve que Lille a bien du mérite et là, j'ai l'impression qu'ils sont entrés, ils ont démarré leur match une demi-heure trop tard. Parce que vraiment, la manière dont ils ont encaissé les deux premiers buts, c'était quand même assez inconcevable.
En plus, dans la soirée, ils ratent un pénalty.
Absolument. Après, il y a Jonathan David qui manque son pénalty. On sent que c'est un jeune joueur qui a du mal encore à s'insérer dans cette équipe. Et puis, ils font une deuxième mi-temps de feu. Ils auraient pu gagner ce match parfaitement. Donc, le match nul est finalement, je pense, un résultat
payé.
Tout à fait honorable. Et ça va leur permettre d'affronter le Milan AC qui va être leur prochain adversaire dans des meilleures conditions que s'ils avaient perdu.
Ouais. Disons, imaginons-le, Gilles.
Alors, je serai un peu plus sévère parce que le Celtic Glasgow, qui est quand même une équipe en désuétude, même dans son championnat en ce moment, qui mène 2-0 à Lille. Alors, on peut avoir, comme mes collègues, le côté ils ont remonté le score et donc éviter la défaite. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'être mené 2-0 par le Celtics, ça prouve quand même que le niveau global et de Lille et du football français est en ce moment calamiteux. Parce que quand même, cette équipe du Celtic, c'est un bloc homogène avec un tout petit peu de réussite, mais c'est rien du tout. Et donc, face à rien du tout, être mené 2-0, c'est très inquiétant. Avec le réfé en parlait, Jonathan David n'est pas aussi même qu'il veut. Mais être à ce niveau-là, on peut déjà parler de fiasco du recrutement lillois.
Contre-attaque. Parce qu'aujourd'hui, je défends enfin le football français.
Vous défendez l'indéfendable.
Voilà. Je vais vous dire, Real Madrid, des Zinedine Zidane.
Oui.
Il a fait la remontada aussi.
Voilà, justement, ils étaient menés 2-0 et ils n'égalisent qu'à partir de la 87e minute, monsieur Gilles Verdez.
Donc, quel est le rapport?
Fiasco! Du football quoi? Espagnol, quand vous connaissez par exemple que Zinedine Zidane avec tous les grands joueurs qu'il a, quels sont les joueurs de l'autre côté que vous pouvez citer?
Bah c'était pas le même niveau quand même que le Celtic Glasgow.
Ah, mais attendez, parce que justement aussi Lille n'a pas le niveau du Real Madrid.
Très bien.
Donc voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que
c'est un scoop, à peu près, ça.
Voilà, de toutes les façons, les oiseaux de même plumage volent de compagnie et ils étaient avec Glasgow qui est plus connu que Lille sur le plan européen.
Et ben justement, vous voulez défendre le football français, on va faire un bilan quand même de cette semaine. Nous, en tout cas, Laurent Salerno avait trouvé une très jolie musique pour illustrer cette semaine européenne. Voilà, du Chopin. C'est pas très gay, mais c'était... on avait baptisé cette page Bonjour Tristesse, surtout pour ce qui était de la Ligue des Champions. Bah, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, on s'y prépare. Parce qu'on avait effectivement vu ces trois clubs français mardi et mercredi soir disputer la Ligue des Champions. Le PSG taillé pour l'Europe, en tout cas son effectif avec ses stars a été, on va être gentil, on va dire laborieux. Rennes a évité la catastrophe du côté de Séville. À noter que le PSG, lui, hein, était en Turquie. Et puis l'OM, à domicile, inquiétante pour ne pas dire catastrophique. Alors, quel est le bilan pour vous, Rémi Ngono?
Il est merveilleux, selon Rémi.
De vers ce côté-là, comme il a déjà dit merveilleux, j'ai dit catastrophique.
Ah, vous voyez comment ça se passe, les débats. Ouais. C'est pas donc, tricky, hein,
donc, de toutes les façons, là où on attendait le football français, c'est là où il n'est pas. C'est-à-dire que au niveau des grands.
Pas, non,
ah oui, au, mais on vient quand même d'arriver en finale de la Ligue des Champions. On vient quand même de rêver de la Ligue des Champions.
Mais le PSG reste
on
un peu à part.
On a quand même Neymar qui est là. Vous c'est avez blessé. Di Maria qui est de l'autre côté. Vous avez bien sûr aussi Kylian Mbappé. Mais de ce point, lorsque j'ai vu la prestation du PSG, c'est-à-dire que le PSG qui se fait quand même prendre.
Ah oui, le début de match était carrément raté.
Et qui concède 16 tirs. C'est hallucinant. 16 tirs. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ça, et d'ailleurs, va le déclarer plus tard qu'il y avait des boulevards. Et pourtant, cette équipe du PSG, vous avez au milieu quelqu'un qui est défenseur central. C'est-à-dire que on me dit bien que voilà, on va muscler le milieu de terrain, et puis vous mettez Pereira derrière, et après vous faites monter votre défenseur central, mais il y avait des boulevards partout. C'est pour ça que moi je dis, je crois que Thomas Tuchel est presque déjà arrivé au terme de sa période de nullité, d'utilité. Donc, pour moi, aujourd'hui, si le PSG ne joue pas bien, je crois que c'est à cause de Thomas Tuchel, parce que il y a un proverbe africain qui dit, quand on a un berger qui est aveugle, tous les moutons finissent dans le ravin.
Ça s'appelle des moutons de panurge.
Si on reprend le panorama global, vous avez Marseille qui n'a pas de joueurs, Rennes qui n'a pas d'expérience et Paris qui n'a plus l'envie. Donc, c'est une semaine catastrophique pour le football français. Alors, on a deux problèmes. Le problème en Ligue des Champions, c'est que on n'a pas le niveau. Marseille n'a pas le niveau, Rennes n'a pas le niveau, le PSG a le niveau. Mais le PSG en ce moment, ça ne va pas. Il n'y a pas de fond de jeu, il y a une crise de management, il y a Neymar qui joue un peu, se blesse. Il y a Mbappé. Voilà, il y a Mbappé qui a reconnu lui-même que son début de saison n'était pas top. Et en Ligue Europa, on n'a pas d'effectif. Vous voyez bien que quand Font à Lille est sur le banc, Lille n'a pas d'âme. Donc, les équipes, Rémi parlait de Mourinho, lui fait 9 changements. Bon, il perd. Mais en France, si vous faites ça, vous n'avez plus d'équipe. Vous n'avez pas d'équipe bis. Ouais. Donc, la Ligue Europa, on peut pas, parce que si on la joue le jeudi, on est fatigué le week-end, et la Ligue des Champions, c'est dur. Donc là, c'est un naufrage.
Alejandro ?
Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a vu à chacune de ces soirées que les plus mauvais matchs étaient celui où participait un club français. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il y a un écart des niveaux entre les équipes, mais c'est qu'il y a aussi un manque d'envie, un manque de révolte. On voit des équipes qui sont modestes. J'ai vu Ferencváros, par exemple, qui a perdu 5-1 face au Barça, mais qui avait réussi un match intéressant. On voit quand même des équipes modestes qui essayent de se surpasser. Midtjylland, l'équipe danoise, a tenu tête à Liverpool pendant un bon moment, et on sentait qu'ils avaient envie de jouer et qu'ils n'étaient pas là uniquement pour stopper l'équipe adverse. Donc c'est plutôt à ces niveaux-là que je m'inquiète, et c'est vrai que le cas du PSG est particulièrement mystérieux, parce que on comprend pas trop qu'est-ce qui leur arrive. C'est vrai tout ce que dit Gilles, qu'il y a un problème de management, que les joueurs sont à court de forme, mais enfin
oui, tous les choix de Tuchel effectivement font beaucoup
clubs,
parler.
Oui, mais tous les clubs sont confrontés à un début de saison un peu infernal, voilà, avec des matchs qui se succèdent à une vitesse folle, mais il y a des équipes qui arrivent quand même à jouer.
Oui, et c'est ça aussi, peut-être le remettre dans le contexte, et on en parlait cette semaine, évidemment, dans Radio Foot International, c'est-à-dire, en plus, il y a beaucoup de matchs, il y a un calendrier extrêmement serré, il y a des rendez-vous qui sont importants, finalement, parce que ceux de Ligue des Champions, plus le championnat, et on se retrouve dans une année, c'est pour ça, sans doute, que le Real, finalement, perd 2-0 avant de faire une petite remontada, que Tottenham, c'est pareil, se crache sur un autre terrain. On va avoir ça toute la saison, peut-être, Gilles ?
Oui, plus les ruptures du calendrier international avec les matchs de sélection. Une équipe comme le PSG, tout le monde part en sélection.
À l'autre bout du monde,
et
parfois.
À l'autre bout du... Vous avez vu là, Tuchel, dès qu'il a vu que Neymar était blessé, là, il dit tout de suite, et il ne pourra certainement, à coup sûr, jamais jouer avec le Brésil. Pourquoi ? Parce que sa crainte, c'est que Neymar aille quand même avec le Brésil, plus ou moins rétabli, se reblesse gravement. Donc, toute la saison, ça va être ça. C'est une saison hachée qui a commencé pour les meilleurs sans vraie préparation, sans même de vraies vacances. Donc, c'est très compliqué. Avec, en perspective, au bout, un euro. Donc, c'est une saison interminable avec énormément de blessures. Les entraîneurs le déplorent. De Bruyne criait récemment, attention au calendrier infernal. Donc là, vraiment, c'est
et
la
Zidane
plus...
Zidane aussi le disait.
Tout le... C'est la grande incertitude.
Avec, c'est-à-dire des grands avec des matchs avec... qui vont être reportés. On a le cas des Lens Marseille, par exemple. Donc, ça va ajouter à Marseille encore une complication au niveau
déjà
du calendrier.
Déjà deux matchs de retard aussi pour Lens. Enfin bon, c'est compliqué. En tout cas, on a eu envie de regarder aussi des choses positives dans ces journées européennes et de distinguer deux joueurs qui, pour nous, se sont bien illustrés au cours de la semaine. Le premier, c'est Alfred Gomis, gardien de but rennais, qui a sauvé son équipe plusieurs fois, hein, n'est-ce pas Rémi, du désastre. Il a effectué 8 arrêts décisifs. Le natif de Ziguinchor, arrivé tout récemment de Dijon, donc il a quand même changé, même si Dijon reste en Ligue 1, mais il a changé un peu de catégorie et de club. Il s'est vite et bien vite adapté. Il vit un rêve éveillé, c'est ce qu'il disait au moment où il signait avec le club de Rennes.
À la fin de l'année dernière, j'étais à Dijon et voilà, aujourd'hui je suis ici à Rennes. C'était un bon chemin, il m'a aidé à grandir, j'ai fait mes expériences. Aujourd'hui je suis vraiment très content d'être ici. Cette année il est arrivé à la Ligue des Champions, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Maintenant il faut travailler pour s'améliorer encore plus que ça. On peut toujours grandir, on peut toujours s'améliorer, même si on arrive à 40 ans et on peut apprendre les choses, même sur un gamin de 10 ans. De toute façon il faut rester mentalement ouvert. Mais en même temps être conscient de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable d'apporter.
Alors, il a ni 10 ans ni 40 ans, il en a 27, Alfred Gomis. Gilles, il est en train de progresser déjà parce qu'il a été jeté immédiatement dans le grand bain.
Oui, alors les deux, Mendy et lui, ont des parcours un peu similaires, c'est-à-dire beaucoup d'années d'errement, d'errance, pas de stabilisation, Mendy... quasiment Pôle emploi, et puis Gomis, lui, n'arrivait pas en Italie à trouver sa voie. Et il y a eu cet éclair à Dijon, cette saison où il est le meilleur homme, il permet à Dijon d'être là encore, hein, parce que sinon,
en
Dijon
Ligue 1,
serait descendu. Voilà. Mmh. Et puis là, il se révèle, il prend une place qu'on lui avait gardée toute chaude avec son compatriote, et il se révèle, et c'est vrai qu'il fait un début de saison monumental. Dans une équipe de Rennes qui, en ce moment, doute, il est le pilier, la lumière qui maintient à flot l'équipe quand même.
Il leur a permis surtout de ne pas encaisser beaucoup plus de buts du côté de Séville, Rémi. 8 arrêts, je crois qu'il en avait fait 6 à la mi-temps. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été...
10 selon mes statistiques.
D'accord.
C'est pas celle de l'UEFA, mais on vous donne qui touche.
Allez. Donc, non, en même temps, je crois que le Sénégal... est en train de faire quelque chose, de découvrir un bonheur. C'est comme à l'époque quand le Cameroun avait Bel Joseph Antoine et Thomas Kono, le meilleur gardien de tous les temps. Et puis, les deux se ressemblent tellement, de telle sorte que...
Et en aujourd'hui, plus, dans le même club maintenant, quoi, l'un qui remplace l'autre.
Oui, parce que... Et puis, c'est quand même, quand on voit les transferts, 15 millions pour lui, 25 millions pour l'autre, c'est énorme pour des gardiens africains. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont les gardiens les plus grands du monde. Parce que Manuel Neuer, c'est 1m92. Lui, c'est 1m93.
Ah,
et l'autre, c'est 1m97. Donc, franchement, au niveau de ce qu'on peut dire, l'assurance aérienne, ils sont de véritables, ce qu'on peut dire vraiment, ils sont imbattable. Maintenant, quand on voit la prestance, c'est-à-dire qu'exactement ce que Neuer fait, c'est-à-dire que pratiquement, ils ont des bras trop longs, des pieds longs, mais seulement, Gomis a encore un problème, il a un problème, un jeu de pied qui empêche encore qu'il puisse jouer le rôle de libéro. Mais sur le réflexe, c'est déjà un très bon gardien et ça fait au moins que l'Afrique puisse encore se souvenir avoir des bons gardiens comme on pouvait avoir les Badou Zakri, on pouvait avoir les... Et d'ailleurs, on avait eu un bon Sénégalais, comment on l'appelait à l'époque, Tony Silva. Tony Silva, mais sauf qu'il n'était pas très grand, il avait 1m85, mais il avait une grande détente. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une véritable fierté.
Alejandro, en plus, il est rentré dans les cages de Rennes, où donc il y avait ces défis d'une saison quand même à assurer, et en plus d'une saison européenne. On a l'impression avec beaucoup de naturel.
Absolument, on peut admirer sa décontraction. D'ailleurs, on l'avait déjà fait à la CAN, quand il avait un petit peu remplacé au pied levé Mendy, et il avait
Mendy
réussi
blessé.
Quand même une très belle campagne. Mais bon, j'ai de l'admiration pour Alfred Gomis, mais encore plus pour Mendy quand même, parce que ce qu'il est en train de faire est tout simplement exceptionnel.
Oui, alors parlons-en de Mendy, parce que Mendy, c'est l'autre lion de la Teranga. Et lui, prédécesseur de Gomis, donc il est resté qu'un an parce qu'il venait du stade de Reims. Mais en tout cas, il multiplie, lui, les clean sheets avec son équipe, c'est-à-dire il n'encaisse aucun but.
Absolument. Et 5, surtout, il est arrivé
selon nos statistiques.
Il arrive dans un club où son prédécesseur, on va dire, et les gardiens espagnols Kepa, est en pleine crise de confiance. Donc, il était particulièrement
déjà
scruté, attendu. Beaucoup se demandaient si Lampard avait eu raison d'aller chercher ses gardiens un peu connus pour le mettre devant les cages
d'un petit club
Chelsea qui avait des gros problèmes dans ces domaines. Donc, il avait une pression maximale. Tout le monde le scrutait depuis le début pour voir s'il avait vraiment l'étoffe d'un grand gardien. Et pour le moment, il est en train de rassurer tout
le
monde.
Il est grand au sens propre, comme au sens figuré. Ouais. Parce que c'est l'un des rares, hein, sur le plan athlétique, 86 kilos, c'est-à-dire que vraiment de masse musculaire, il n'y a pas de graisse. Il a une détente incroyable, c'est clair.
Il fait des abdos lui aussi.
Oui, il fait beaucoup, il travaille énormément. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, quand on le voit, c'est un gardien aussi impressionnant. Parce que justement, lorsque l'attaquant vient, il perd de ses capacités. Il a eu rapidement une assurance qui est quand même incroyable en Première Ligue. Voir ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et surtout aussi avec cette équipe de Chelsea, j'ai dit bravo.
Bon, Gilles. Mentalement, il était prêt à tout. On le disait tout à l'heure, vu d'où il vient, c'est quelqu'un pour qui c'est inespéré. Alors lui a toujours cru en son étoile, heureusement, parce que d'années de galère quand même. Mmh. Presque d'années de mépris, hein, quand même. Rejeté de tas de clubs, déconsidéré, mal aimé, etc. Lui, il a toujours cru en son étoile parce qu'il a un mental fort. Et justement, sa spécialité, alors il y a Rémi le disait, la grande taille, mais c'est un excellent gardien de match serré. Et d'ailleurs, son entraîneur lui a rendu hommage. Il y a des gardiens qui sont très bons. Quand vous avez 15 arrêts à faire, c'est des gardiens qui sont chauds à ce moment-là, tout le match. Mais lui, un seul arrêt, et il fait l'arrêt déterminant, même quand son équipe domine et quand il y a très peu de tentatives sur son but. Donc ça, ce sont les gardiens qui peuvent, sur un arrêt, sauver l'équipe, amener au moins un point ou trois, ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, je pense effectivement que sa grande taille, c'est le prototype idéal du gardien. C'est pour ça que Petr Cech, qui connaît très bien Eren et Chelsea et les gardiens de but, est allé le chercher parce qu'il disait « c'est lui, mon successeur ». Sous-entendu, tous ceux qui ont été entre Cech et lui, c'était rien.
C'était rien, oui. Alejandro ?
Et on va profiter qu'on parle des Sénégalais pour saluer un de nos auditeurs sénégalais qui nous écoute sur son lit d'hôpital. Alors, un message d'encouragement à Boubacar Diédiou, qui doit sûrement apprécier cette discussion autour des gardiens sénégalais. Et puis un petit message aussi pour un auditeur tchadien qui s'appelle Altolman Genève, qui nous dit qu'il nous écoute les pieds dans l'eau parce que les deux fleuves ont débordé à N'Djamena et donc la ville est inondée en ce moment. Donc bon courage à lui et à nos auditeurs de N'Djamena.
Et à tous ceux qui nous suivent donc dans cette émission, autant par le poste radio que par Facebook Live. Rennes et Alfred Gomis joueront samedi soir. Ça sera contre le PSG au Parc des Princes ici à Paris, alors que Edouard Mendy avec Chelsea jouera demain en fin d'après-midi en Première Ligue. Ça sera à Burnley à 15h en temps universel. L'équipe est seulement 10e pour l'instant du championnat, mais comme tous les championnats ont du mal à se mettre en route cette année, il y a encore de l'espoir pour les Blues. On continue et on va parler d'une ligue fermée.
Moi, ça fait 30 ans que j'ai démarré dans ce métier, ça fait un peu longtemps, mais ça fait 30 ans que j'entends parler de ce dossier-là, sous toutes ses formes, qui n'a jamais abouti à rien du tout. Donc je ne crois pas à la ligue fermée, je n'y ai jamais cru, je n'y crois toujours pas.
Ligue fermée, Super Ligue européenne, plusieurs noms pour peut-être une même compétition, en tout cas un même fantôme, parce que Étienne Moati, notre confrère qui vient régulièrement ici, nous disait qu'il n'y croit pas. Pourtant, ce fantôme a l'air d'être sorti de l'armoire ces jours-ci. Une Super Ligue européenne, on en l'avait évoqué donc ces derniers temps parce que Sky Sport croyait avoir des informations. La chaîne anglaise, la semaine dernière, qui nous disait que Liverpool et Manu préparaient cela, et notamment avec un appel à des financements, et que tout cela serait sous le chapeau de la FIFA. Et puis Josep Maria Bartomeu, le catalan, le démissionnaire, surtout au moment de quitter le FC Barcelone, qu'est-ce qu'il laisse sur son siège ? Une petite bombe, peut-être à retardement, et il nous dit ceci.
La junta directiva Le comité de direction a approuvé ce lundi l'acceptation des conditions pour participer à une future Super Ligue européenne entre clubs de football, un projet qui concerne les plus grands d'Europe.
C'est lui qui va mener le projet finalement. Le Barça sera dans une Super Ligue européenne l'année prochaine, Alejandro ?
C'est un peu surréaliste tout ça, parce qu'on a un président qui est totalement désavoué par les sociaux du FC Barcelone.
Discrédité même peut-être ?
Totalement discrédité et qui démissionne et qui est contraint à la démission pour éviter d'être jeté par une assemblée générale.
Mais qui
et
pense qui, à son prochain poste.
Nous dit que Barcelone va jouer cette Super League dont on connaît pas grand chose et dont on ne sait pas grand chose. Donc, ça paraît presque une blague de mauvais goût de sa part. En tout cas, ça ne vaut strictement rien de tels propos de la part de quelqu'un qui n'est plus en poste.
Gilles, sauf qu'on a l'impression quand même que ce fantôme de temps en temps ressort de l'armoire et avec de plus en plus de détails. Parce que l'autre fois, on nous disait, il y aurait, alors c'était autour de 5 milliards d'euros qui seraient trouvés pour organiser cela, que ça serait sous l'égide de la FIFA et non plus de l'Union européenne, qu'il y aurait 5 clubs anglais, dont Liverpool et Manchester. Donc, maintenant des clubs aussi, évidemment, d'autres pays et évidemment, sans doute, le Barça et le Real pour faire le spectacle. Est-ce que c'est vraiment un ballon d'essai, encore un de ces multiples ?
Oui, alors je suis pas tout à fait sur la ligne du réfé, parce que ce qu'a fait Bartomeu, c'est la patate chaude. C'est-à-dire, hop, je m'en vais, je passe la patate chaude et débrouillez-vous avec. Mais néanmoins, il y a eu le vote, et c'est la première fois qu'un président, alors peut-être pensiez-vous, Annie, joue-t-il un poste futur ? On ne sait pas, mais c'est la première fois quand même que officiellement un président reconnaît que son club a entériné une décision. Donc ça veut quand même dire qu'il doit y avoir de manière souterraine de gros engagements déjà bien avancés pour qu'il déclare ça. Moi, ça me fait peur pour trois raisons. D'abord parce que de plus en plus ils veulent s'inspirer de la NBA, cette ligue fermée qui réussit à séduire le monde entier en basket américain. Donc les clubs ont envie de ça. Les championnats nationaux.
Il n'y a que au basket américain que ça existe.
Oui, mais ils ont envie de s'inspirer de ce modèle si vertueux, selon eux. Deuxièmement, avec le Covid, je pense qu'on réduit les incertitudes, là. Si on vous dit, vous allez faire toutes les semaines Barça, Liverpool, PSG, Real, les clubs qui en ce moment se disent, waouh, est-ce que ce modèle de foot, il va nous mener loin? Ben là, ils vont être rassurés. Et puis, troisièmement, c'est, vous le disiez aussi, la FIFA. C'est la FIFA qui veut damer le pion de l'UEFA en leur disant, avec votre petite Ligue des Champions, on va vous montrer, nous, ce qu'on va faire. Et quand la FIFA s'en mêle, on rigole moins.
Je pense qu'il y a quand même des explications à la manière dont Bartomeu s'est exprimé et surtout le fait qu'il laisse Barcelone dans une situation financière qui est loin d'être excellente. Il n'a pas réussi à convaincre les joueurs d'accepter sa façon de négocier la baisse des salaires, par exemple. Donc, c'est une manière de dire, voilà, je vous laisse un héritage, un super projet qui va permettre d'amener beaucoup d'argent à Barcelone. Donc, c'est une manière de se donner le beau rôle au moment où il quitte les clubs. Mais je pense que la FIFA n'est pas vraiment derrière cette Super League. La FIFA a d'autres projets, c'est l'idée d'organiser une vraie Coupe du Monde des clubs. C'est plutôt ça, les discours d'Infantino.
Officiel, peut-être. Oui.
Après, peut-être qu'il cherche à gêner un petit peu l'UEFA dans la manière de gérer sa Ligue des Champions et ce qui est certain, c'est que tout ça va finir par faire pression sur l'UEFA pour essayer de faire évoluer la Ligue des Champions sous d'autres formats. On en parle déjà beaucoup depuis quelques semaines.
Rémi, cette Super League, on parlait aussi d'une Super League au continent africain, sur le continent africain, si je ne me trompe pas, aussi, plus ou moins, Infantino qui avait proposé ça sur votre continent.
Je vous avais dit que lui raconte n'importe quoi pour le continent. Mais concernant quand même celle-ci, il y a quelque chose qu'il faudrait signaler, c'est que le premier à saboter cette Super League, et c'est pour ça justement que lui, il balance ça, Bartomeu, c'est parce que c'est Xavier Tebas qui va justement faire des déclarations qui sont incroyables en disant que Bartomeu, totalement, est sous le contrôle de Florentino Pérez. Il a déclaré, c'est quand même terrible.
Tebas qui est le président de la Ligue de football espagnol.
Voilà, et il dit que justement c'est quelque chose qui a été négocier de façon souterraine, comme Gilles Verdez a dit, il a utilisé le mot souterrain, les négociations souterraines. Et ce genre de négociation ne se fait que aux alentours de 2h, 5h du matin, quand on sort dans, d'un bar. Voilà ce qu'il a pu raconter. Donc, moi, je me dis...
Je sais pas s'ils sortent de bar, hein, ces présidents-là.
Ah non, mais oui, c'est ce qu'il disait. Il disait que c'était un peu une discussion de fin de nuit. Oui, en fin de nuit,
voilà. Mm. Donc, moi, je crois que lorsqu'il est en train de le dire, c'est que ça a déjà avancé. Et si ça a avancé, c'est parce que, justement, il sait que, en le disant, on va quand même dire que lui n'est pas parti comme étant néant, comme s'il n'avait pas fait un projet. C'est un projet qui devrait rapporter beaucoup d'argent. Et peut-être que la nouvelle direction, même si la nouvelle direction a dit, nous ne prenons personne de l'ancienne équipe, enfin, la direction provisoire, nous ne prenons personne de l'ancienne équipe, mais néanmoins, les autres pourront dire que, bon, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour...
Non, mais en plus, on en a parlé, on en reparlera. Le problème, ça serait de saboter, évidemment, les championnats nationaux, parce que ça serait déjà les premières victimes. Et c'est quand même encore ça qui fait la réputation des grandes équipes et des équipes hexagonales, on va dire. Et puis, en plus, ça serait peut-être la mort de la Ligue des champions. Et là, peut-être que l'UEFA ne se laissera pas faire. Alejandro, quelques messages de
Il y a Bleissal qui est un peu...
Sur le café des sports.
Se fait un peu le porte-parole d'autres en disant qu'une ligue fermée, c'est destiné à tuer surtout les équipes supposées les plus faibles. Donc effectivement, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Rappelons quand même que le football est un sport très organisé et qu'on ne peut pas organiser une compétition en dehors des structures qui existent. Donc aussi bien les arbitres que les joueurs, etc., ont une licence de footballeur, et sortir de ce cadre-là serait aller dans l'inconnu le plus complet.
Allez, on change de sujet dans Radio Foot, et voilà de quoi on va parler pour ceux qui nous voient, et pour ceux qui nous entendent, ils vont l'entendre tout de suite.
Una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.
Pour ceux qui voient les images comme Gilles Verdez, hein, c'est Diego Maradona lui-même qui chante. Il aime chanter d'ailleurs, paraît-il, et c'était dans le fameux film de Emir Kusturica. Feliz cumpleaños donc, feliz cumple, quel est cumpla feliz, tout ce qu'on dit du côté de l'Argentine aujourd'hui. Diego Maradona, alors ses surnoms, Marado, Pelusa, El Pibe de Oro, El Diez, l'unique et l'éternel numéro 10 argentin, aura donc 60 bougies sur son gâteau ce soir. Une semaine d'écart avec le roi Pelé, c'est amusant. Juste la semaine dernière, ici dans Radio Foot, c'était l'anniversaire de Pelé, ses 80 ans.
Une semaine et 20 ans.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour ce qui est de fêter leurs anniversaires, Maradona le fêtera tout seul, hein, Alejandro, parce qu'il a un cas contact dans son entourage, quelqu'un qui est porteur du virus, et du coup, il est à l'isolement. En tout cas, tout un symbole dans une Argentine folle de foot qui vient de connaître 228 jours sans aucun match. Le ballon roulera à partir de ce soir. C'est la reprise du football en Argentine sous forme de tournoi. En tout cas, Dieguito, le fantastique footballeur argentin qui a fait rêver des générations d'admirateurs, de supporters, a déjà reçu des centaines de messages via les réseaux sociaux. Et exactement autour de minuit et une minute ou une seconde peut-être, les premiers à poster un message, c'était ceux du club de Naples. Et quelques heures après, un des joueurs de l'effectif de Naples a lui aussi adressé un message.
Salut Diego, je suis dans la ville qui t'a tant aimé, qui t'aime et qui t'aimera pour toujours. Pour nous tous, tu es le football. C'est pourquoi je te souhaite le plus beau des anniversaires. Je te souhaite plein de belles choses et j'espère revoir vite la légende que tu es. Je t'embrasse et allez Naples. Salut.
Ciao, ciao. Voilà pour ce qui est de Kalidou Koulibaly qui transmettait ses, lui aussi son message. Alors, on a aussi sur les réseaux sociaux un petit documentaire qu'on a... Moi, j'ai pas encore réussi à tout voir, mais on aura tout le week-end pour ça, surtout nous en France où on est enfermés, n'est-ce pas? Il y a cet Espagnol, Richie Castellano, qui a publié une vidéo. On l'a mise sur notre page Facebook, d'ailleurs, parce qu'elle est disponible sur YouTube. 122 minutes sous le titre « Eternamente Maradona ». Ou 156 personnalités. Alors, je vous dis un petit résumé, mais il y a Xavi, Zidane, Ronaldinho, Simeone, il y a même Nadal et Julio Iglesias qui souhaitent à Maradona bon anniversaire. Le temps passe donc, Alejandro, 60 ans, l'impression que son aura grandit à Maradona, qu'il est déjà éternel.
Mais disons que pour les jeunes...
Pour vous, en tout cas, je sais que oui, parce que je sais que c'est votre idole, à non, jamais.
Mais je pense aux jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas connu le Maradona joueur comme j'ai pu le connaître, et qui entendent souvent le comparer à Messi ou à Cristiano Ronaldo. En fait, c'était un joueur exceptionnel comme peuvent l'être Messi et Cristiano Ronaldo, mais c'était plus que ça, c'est-à-dire c'était un personnage... typique des années 80, c'était une époque où on vivait une certaine folie. C'était un monde où les joueurs n'étaient pas obligés d'être toujours politiquement corrects, n'étaient pas entourés
forcément
des spécialistes de la communication qui leur dictaient la manière dont ils devaient se comporter, dont ils devaient parler. Maradona était un personnage qui
correspondait à son jeu, non ?
Qui pouvait être attachant ou que d'autres pouvaient détester, mais en tout cas qui était totalement imprévisible, qui était totalement libre, qui disait vraiment ce qui lui passait par la tête, que ça plaise ou non, qui vivait la vie à 200 à l'heure, très intensément, que ce soit sa vie privée, sa relation avec les drogues ou même sa relation avec les dirigeants du football. Il était souvent très contestataire. Il a défié
avec le président de la FIFA.
Joao Avelange, le président de la FIFA. Il a défié le président de Naples, Corraino, quand il ne l'a pas laissé partir à Marseille. Bref, c'est un joueur comme on n'en voit plus et comme on n'en verra probablement plus.
Gilles, est-ce que vous aussi, vous êtes un admirateur de ce footballeur extraordinaire?
Ah, je pourrais en parler des heures parce que, en fait, je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde 1994 avec l'Argentine, donc c'est la fin. Hein. J'ai vu le match contre le Nigeria, contre la Grèce où il marque ce but et on se souvient de son visage.
Exactement.
Hein, fou vers la caméra, cette course folle. Et puis aujourd'hui, les jeunes le redécouvrent par les réseaux sociaux, le film, les documentaires, il y en a encore un là qui sort. Donc Maradona, c'est vrai que c'est un personnage, mais pour moi, c'est le plus grand génie. Et il a fait gagner quand même des équipes faibles. L'Argentine 86 qui gagne la Coupe du Monde, c'est Maradona et Di Porteur d'eau, enfin, globalement. Hein. Bon, Bruciaga, ok. Naples, quand il gagne les titres en Italie, c'est Maradona et puis c'est pas reluisant derrière. Alors que les plus grands aujourd'hui sont accompagnés. Lui, il était tout seul. Donc c'est le génie absolu avec ses défauts, le génie aussi noir, le génie compliqué. Mais moi, je me souviens, je suis allé à Naples peu après son départ quand le PSG en 92 affrontait Naples sur les traces de Maradona et c'était encore lui. Et aujourd'hui, à Naples, c'est encore, vous allez à Naples aujourd'hui, moi j'y vais de temps en temps, c'est encore Maradona, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a marqué tous ceux qui l'ont vu de près ou de loin d'une manière indélébile et incroyable.
Surtout, il y a un documentaire hein, dont on avait parlé ici qui retrace ses années napolitaines.
Incroyable.
Est-ce qu'il a fait avec ce club?
C'est dingue, hein.
Il a porté ce club
totalement
dans une ville qui était très pauvre à l'époque, ça l'avait étonné, ça avait étonné son père quand il était arrivé dans cette ville de Naples qui était encore très, dans les années 80, encore très pauvre, et finalement qui les porte à être champion d'Italie. Et même vainqueur d'une Coupe d'Europe.
C'est une rockstar, Maradona.
Et la manière dont il accapare le public napolitain lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de 1990, l'Argentine joue contre l'Italie à Naples. Et donc, il réussit quand même à obtenir le soutien des supporters locaux d'une manière incroyable.
Presque
et puis, quelques jours plus tard, la manière dont il pleure pendant que l'hymne argentin est sifflé au stade Olimpico de Roma juste avant la finale. Donc, tout ça, ça montre un personnage qui vit vraiment à fleur de peau tout ce qui lui arrive et je pense que ça le rendait très proche des gens, beaucoup plus proche que ne peuvent l'être aujourd'hui un Messi ou un Cristiano Ronaldo qui vivent quand même dans une sorte de monde beaucoup plus aseptisé.
Oui, sous cloche un peu. Quel est votre Maradona à vous, Rémi Ngono?
Je crois que Maradona est indescriptible. Indescriptible parce que Gilles a dit tout de suite que c'est lui, il se retrouvait dans des équipes où il était le seul qui décidait, parce que derrière lui, il n'y avait presque personne. Et puis, c'est là où je vais peut-être titiller un peu Alejandro Valente, quand je dis souvent que Messi, on ne peut pas avoir le charisme de Maradona. Parce que quand vous voyez Maradona, il joue chez lui en Argentine. Il quitte de là. Après avoir, bien sûr, joué peut-être 40 matchs simplement et marqué 28 buts, il atterrit directement au Barça. Quand il arrive au Barça, c'est-à-dire que c'est l'un des rares joueurs qui arrive comme ça, ne s'adapte pas et joue étant malade. Maradona, la première année, il a l'hépatite. La deuxième année, bien évidemment, il se fait broyer le pied avec ce défenseur
de
voilà, justement. Et quand même, on retiendra qu'il n'y a que trois joueurs qui se sont fait applaudir au Santiago Bernabéu. C'est-à-dire que c'est Maradona, c'est Ronaldinho, et puis c'est Iniesta. Mais sauf que pour Maradona, il ne s'est jamais fait applaudir.
Les immenses succès de Barcelone.
Non, il ne s'est jamais fait applaudir au Santiago Bernabéu.
Restons sur Maradona.
Donc, je vous ai dit que lorsqu'il se fait applaudir, c'est-à-dire que même Juan José, c'est terrible. Et puis, vous avez parlé tout de suite là de Naples. Il faut se dire qu'il arrive à Naples dans une ville qui vient de connaître justement ce qu'on appelle un tremblement de terre avec 2400 morts, sans pour autant oublier qu'il y avait 250 000 personnes qui n'étaient pas là. C'est un championnat où il n'y avait que des grandes équipes, mais Naples ne valait rien. Et finalement, Maradona, lui seul,
transforme la vie de ce club. On va vous proposer, au lieu de nos cartons aujourd'hui, une petite surprise, un petit clin d'œil, un flashback. On revient en arrière et on se cale sur le 1er novembre 2010 sur RFI et c'était aux alentours de 22h.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur Radio France International. Un nouveau rendez-vous donc pour les amoureux, les fanatiques, les passionnés de football. Le coup d'envoi de Radio Foot International, nous le donnons avec Diego Maradona. Un hommage au grand footballeur argentin qui a eu 50 ans samedi à Buenos Aires. Alors même si l'éternel numéro 10 est au chômage depuis quelques semaines, même s'il a perdu donc son poste d'entraîneur et qu'il dit avoir passé le plus triste anniversaire de sa vie après le décès surtout de l'ex-président Kirchner, eh bien nous allons parler de Diego Maradona. Voilà, un petit flashback, Alejandro, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on lançait Radio Foot International et vous étiez déjà avec moi dans le studio.
Oui, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai que...
Ça n'a pas rajeuni Maradona non plus.
À l'époque, on aurait été très heureux de savoir que 10 ans après, l'émission aurait connu un tel succès. Et on serait
J'étais aussi
encore
en
là
studio.
Pour,
hein.
Et Rémi était là, bien
quelques
sûr,
jours après.
Et Gilles nous a bientôt rejoints.
Exactement.
Enfin, c'était quelque chose de magique.
Et ces 10 ans, eh bien, on les fêtera avec vous la semaine prochaine à l'aide de vous tous. Nous avons déjà reçu beaucoup de messages sur le WhatsApp de Radio Foot, mais très peu d'auditrices. Où êtes-vous les filles? Laissez-nous un message pour dire à Rémi que vous l'aimez et surtout que vous écoutez l'émission, que vous aimez le foot. Ou simplement que vous aimez le sourire de Zidane, on en a parlé hier. Vendredi prochain, en tout cas, un spécial 10 ans du Café des Sports. Laissez des messages à Rémi et Xavier et envoyez-nous vos proverbes africains. On en lira quelques-uns. On en parlera toute la semaine prochaine. On sera autour de nos 10 ans pour rendre le contexte un peu plus allègre. C'est la fin de ce Radio Foot de ce Café des Sports. Merci, à la semaine prochaine.